بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ الإسلام، nous avons complété ce soir le troisième juz, Wama Ubarri Unafsi. Donc demain, dimanche, on va lire le 14e, Rubama. Et subhanallah, lundi, quand on se revoit, on est déjà à la moitié du Coran. On a dit là, ça va aller très vite. Il faut vraiment essayer de profiter au maximum de la lecture, profiter au maximum de ce ibadah. Et le grand gagnant, ce sera celui qui réussira à se connecter à la parole d'Allah Azza wa Jal durant ce mois, par le biais, entre autres, des salat au tarawih, sachant que nous accomplissons 20 raka'at tous les soirs et que nous complétons un khatm al-Qur'an en un mois, en un peu moins même, en 28 ou en 29 jours, ça nous donne la possibilité d'écouter l'intégralité du wahi, l'intégralité de ce qu'Allah Rabbul Izzah a révélé à la ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là un ni'mah, c'est là un grand bienfait. Ce soir, nous allons nous attarder sur quelques versets de la sourate Yusuf. La sourate Yusuf, c'est la plus belle des histoires du Coran. C'est une des histoires où il y a le plus de leçons de sagesse, de hikmah à retenir. Donc on ne peut pas sélectionner un verset plutôt qu'un autre. L'année dernière et l'année d'avant, on avait sélectionné certains passages. Cette année, on essaie de voir sur quoi on peut parler. Mais on va dire qu'on va voir le dénouement. Le dénouement de la sourate Yusuf, c'est vraiment la nusra d'Allah Azza wa Jal. Tous les anbiya alayhim salatu wa salam, tous les prophètes, sans exception, ont connu des situations dans ce dunya à travers le tablir, la propagation de la risala, de la mission, où ils ont rencontré des difficultés, où ils ont subi des épreuves. Ils ont été persévérants, ils ont été patients, et à chaque fois, Allah Azza wa Jal a envoyé sa nusra, son aide. Yusuf alayhi salam est par excellence le prophète qui a été opprimé. Chaque prophète a connu une épreuve particulière. Ayoub alayhi salam, on verra peut-être son histoire d'ici quelques jours. Ayoub alayhi salam est éprouvé par la maladie. Yusuf alayhi salam a été trahi par ses frères. Il a été trahi dans différentes situations. C'est une personne qui a été donc opprimée. Et là, nous sommes, on va directement là, au dénouement, à la conclusion. Nous arrivons à un point où Yusuf alayhi salam voit la nusra, l'aide d'Allah azza wa jal. Lorsque il a auprès de lui Benyamin et les frères reviennent de leur village pour lui demander encore une fois de l'aide. Et là, Yusuf alayhi salam reçoit l'ordre de la part d'Allah azza wa jal de dévoiler son identité. Pour rappel, Yusuf alayhi salam à ce moment est un responsable, on pourrait dire un ministre, et ses frères connaissent une situation difficile. Il y a une disette, il y a une famine dans leur village de Canaan, et ils sollicitent l'aide de Yusuf sans savoir que c'est lui, sans savoir que c'est ce petit frère qu'ils avaient essayé de tuer en le jetant dans un puits. Et donc là, il reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal de dévoiler son identité. Ibn Kathir, rahimahullah, dit qu'également, c'est lorsque ses frères reviennent, il dit, ministre, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, dit, on est dans une situation difficile, on ne peut pas avoir plus de marchandises, alors que toi tu as ce poste et tu as tous ces bienfaits. Et donc, ils ont touché la sensibilité de Yusuf alayhi salam. Particulièrement, Yusuf alayhi salam a pensé à son père qui vit avec ses frères dans cette situation précaire et difficile. Donc, il ne pouvait plus cacher son identité. Il a voulu vraiment maintenant apporter son aide à sa famille. Et là, il va poser la question à ces personnes, à ses frères. « Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi ?» Id antum jahilun. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorant, injuste? Qalu a innaka la anta Yusuf. Il dit, est-ce que tu es Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Il dit, je suis Yusuf et voici mon frère. Qad manna Allahu alayna. Certes, Allah nous a favorisé. Innahu man yattaqi ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Certes, quiconque craint, c'est-à-dire éprouve la crainte d'Allah Azza wa Jal, est patient, c'est-à-dire fait preuve de sabr, de patience dans les difficultés, très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc, Yusuf alayhi salam, à ce moment, Ibn Kathir dit, أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. Lorsqu'il entend la situation difficile vécue par les membres de sa famille, là, il est attristé. Et il s'est mis à pleurer. Sur Ibn Kathir, il s'est mis à pleurer. Et فَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ. Il a dévoilé son identité à ses frères. Et lorsqu'il dit que إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ, est-ce que vous savez ce que vous avez fait à votre frère Yusuf lorsque vous étiez ignorant, Ibn Kathir, rahimahullah, dit pourquoi est-ce que Yusuf alayhi salam utilise le terme إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. Il dit que إِنَّمَا حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا الْجَهْلِ. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont voulu éloigner Yusuf, le petit frère préféré du papa Yaqub, ils l'ont éloigné, c'était al-jahl, l'ignorance. Ibn Kathir dit, d'une manière générale, lorsque le croyant désobéit à Allah Azza wa Jal, il le fait par jahl, par ignorance. C'est-à-dire ignorance dans le sens où, à ce moment précis, il ignore, il ne comprend pas, il ne réalise pas la gravité de ses péchés, et il oublie qu'il a au-dessus de lui un Seigneur qui yuraqibuhu, qui le surveille, qui l'observe et qui peut sévir lorsque on le désobéit. Hada. Il dit que, et là, l'étonnement, innaka la anta Yusuf. Donc là, il faudrait entrer dans les règles de grammaire et de voir le usloub du Coran, mais ce n'est pas le but. Quand il pose cette question avec étonnement, pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Bien sûr, de retrouver un, leur frère qu'ils croyaient mort depuis toutes ces années. Et deuxièmement, l'autre étonnement, c'est que on le croyait mort, on l'avait jeté au fond d'un puits. Et maintenant, il est sur un trône. C'est incroyable, c'est inconcevable. Quelqu'un qu'on a essayé de subhanallah, d'oublier complètement, d'effacer de notre histoire, il devient ministre de Masr, ministre d'Égypte, qui était un royaume puissant. Et troisième étonnement, depuis le moment où on est venu le voir et qu'on a fait les navettes, on a amené des marchandises, on a donné à manger, depuis le temps qu'on se, on fait des échanges, on n'a pas pensé une seconde que c'était lui. Ibn Kathir, rahmallah, dit que ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ إِلَيْهِ مِنْ سَنَتَيْنِ وَأَكْفَرْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ. Ça faisait déjà deux ans qu'ils venaient avec leurs marchandises voir Yusuf alayhi salam sans jamais se douter que c'était leur propre frère. Donc, قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Donc, il explique comment Allah Azza wa Jal les a honorés après ces moments de difficulté en le réunissant lui et Binyamin. Et il donne la leçon que celui qui fait preuve de patience et qui développe la crainte d'Allah Azza wa Jal, ben Allah Rabbul Izzah n'oubliera pas cette personne. Et les Mufassirin disent qu'on retienne cette leçon de Yusuf alayhi salam, qui a connu ces moments, comme on a dit, de difficulté, d'oppression. Et malgré ça, il n'a jamais perdu confiance en Allah Azza wa Jal. Et si on analyse l'histoire de chaque prophète, Yunus, Ayyub, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes alayhi wa sallam, dans chaque moment d'épreuve, ils n'ont jamais perdu confiance en Allah Azza wa Jal. Et ils ont vu l'aide d'Allah Rabbul Izzah. Et maintenant, la réaction de Yusuf alayhi salam, il a en face de lui ses frères qui l'ont fait beaucoup de mal, qui l'ont fait beaucoup de tort, qui l'ont séparé de son père. Ibn Kathir, rahimahullah, cite, c'est son avis et l'avis de beaucoup de Mufassirin et de pieux prédécesseurs, qui selon eux, ça fait 80 années que Yusuf a été séparé de son père, Yaqub alayhi salam. Maintenant, il faut savoir que l'espérance de vie de ces personnes n'est pas comme la nôtre. D'accord ? Vous savez que, par exemple, Nuh alayhi salam, combien de temps il avait vécu ? Il a prêché plus de 950 années. Donc, quand on remonte, l'espérance de vie n'est plus pareille. Plus de 80 années qu'il est séparé de son papa, Yaqub alayhi salam, et que son cœur est rempli de tristesse, parce qu'il sait également que de l'autre côté, son papa pleure la disparition de son enfant préféré. Mais malgré ça, il ne va pas se venger. Il a en face de lui les coupables. Il a en face de lui les personnes qui sont à l'origine de tous ses malheurs et ses problèmes. Je dirais plutôt ses épreuves. Mais qu'est-ce qu'il va dire à ses frères immédiatement ? قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ. Une phrase magnifique. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Il dit que je ne vais pas vous rappeler vos fautes. Je ne vais pas vous faire des reproches. Je ne vais pas vous dire que, oui, vous avez fait ça à telle période, à telle époque, à cause de vous. Non, aujourd'hui, On n'est pas là pour vous rappeler vos erreurs. Et en plus, il rajoute « Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin » Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Ibn Kathir dit « Voyez le comportement noble de Yusuf a.s. » Et c'était là le comportement de tous les Anbiya. Et nous retrouvons ce comportement, cette faculté à pardonner, cette faculté à passer sur les erreurs de son prochain, cette faculté à prendre du recul et à ne jamais prendre de revanche personnelle. Parce que là, ce n'était pas le dîn qui avait été atteint, c'était l'honneur ou la personne. Le prophète a.s. lui-même, dans le hadith, dit « Ka'anala yantaqimu li nafsi » Il ne se vengeait jamais pour une chose qui le concernait. Et lorsque le prophète a.s. dans une situation, on va dire, similaire, il a récupéré Makka et qu'il retrouve en face de lui tous ses ennemis, toutes ces personnes qui ont torturé ses premiers sahaba, ces personnes qui étaient à l'origine également de l'embargo contre sa famille, et embargo à l'issue de laquelle, selon certains mu'arrikhin, son épouse Khadija radiallahu anha n'a pas tenu. Elle était tellement malade qu'elle est décédée après l'embargo. Ces personnes qui lui ont causé énormément de tort, le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas vengé. Il a dit que aujourd'hui, ô Quraysh, je vais vous dire comme mon frère Yusuf alayhi salam a dit à ses frères, la tathriba alaykum al-yawm, dit que pas de reproche. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donné la possibilité à ces personnes de quitter Makka, de faire ce qu'ils veulent, mais le prophète ne s'est pas vengé. Ça, c'est le caractère noble des prophètes et qui est donc une grande leçon pour nous. Personne dans son histoire, dans son vécu, ne connaîtra une situation d'oppression similaire à Yusuf alayhi salam. Parce que quand un prophète est éprouvé d'une certaine façon, l'épreuve avait toujours atteint le maximum, le seuil supportable pour un être humain. On pourrait dire, sans utiliser des gros mots, le paroxysme de l'épreuve était atteint chez tous les prophètes. Donc, il n'existe pas un homme, un être humain, qui va vivre une même épreuve à un tel niveau. C'est pour ça que les prophètes restent des modèles pour nous. Et lorsque nous disons que « Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi al-iman bi rusul » c'est croire à tous les prophètes et prendre les leçons de l'histoire de tous les prophètes, prendre tout ce qu'il y a eu de bien, et l'histoire, la vie des Anbiya, n'était que du khair, profiter de tout ce qu'il y a dans la vie des prophètes. Donc voir comment Yaqub, Yusuf a agi dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, et nous allons voir dans les versets suivants, comment est-ce que Yaqub alayhi salam également a agi. On va un peu plus vite. Maintenant Yusuf alayhi salam, il dit à ses frères, retournez, on ne va pas lire les versets ni la traduction, on va parler un peu plus vite. Retournez vers votre village, prenez qamisi, prenez mon vêtement, d'accord, et mettez sur le visage de mon père, il retrouvera la vue. Emportez ma tunique, que voici, appliquez-le sur le visage de mon père, il recouvrera aussitôt la vue, et amenez-moi toute votre famille. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, ça c'est kalam ajib, dit, وَقَدْ كَانَ قَدْ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ Allahu Akbar. Ça, c'est l'amour d'un père pour son fils. Pendant toutes ces années, Yaqub alayhi salam a tellement pleuré la disparition de son petit garçon, Yusuf alayhi salam, qu'il en est devenu aveugle. Il a perdu la vue à force de pleurer la disparition. Ibn Kathir dit que personne n'a connu une telle souffrance dans l'histoire des êtres humains. Personne n'a connu un tel degré de souffrance par rapport à la séparation d'un être proche. Et donc, il dit « Wa atouni bi ahlikum ajma'in » Allez-y, faites ce geste, faites cette action, et Allah lui redonnera la vue immédiatement, et ensuite, venez, ramenez-moi toute notre famille. Il dit « Wa lamma fassalati l'iru » Qala abouhum inni la ajidu riha Yusuf alawlan tufannidun » Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, le papa, le père de Yusuf, Yaqub alayhi salam, lorsque la caravane s'approchait, de très loin, le père a dit, je sens une odeur, je sens l'odeur de Yusuf alayhi salam. Même si vous allez dire que je radote ou je suis toujours en train de répéter la même chose, je vous assure que je sens l'odeur de mon fils Yusuf alayhi salam. Dans Ibn Kathir, il dit, Lamma kharajat al-'ir, Allah azza wa jalla fait lever un vent, et ce vent a ramené l'odeur de cette caravane vers Canaan, vers le village. Et Yusuf alayhi salam a senti cette odeur. Et dans un autre commentaire, dit également, فَوَجَدَ رِيحَهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامِ La distance d'un voyage de 8 jours. La caravane était à 8 jours de voyage, de distance de Canaan. Et déjà depuis cette distance, Yaqub alayhi salam, il sentait que je reconnais l'odeur de mon enfant, Yusuf alayhi salam. Et Al-Hassan al-Basri, rahimallah, Ibn Jarir également, ils disent que cette séparation c'était وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكَانَ بَيْنَهُ بَيْنَهُ مُنْذُ فْتَرَقَا ثَمَنُونَ سَنَا 80 années depuis qu'ils s'étaient séparés. Il dit, voyez, l'espérance et l'espoir du croyant. Il n'a jamais arrêté de faire du'a. À aucun moment il ne s'est dit que la situation est désespérante, on tourne la page, et voilà, c'est comme ça. Il savait toujours que Allah, Rabbul Izzah, est Adl et Hakim. Allah est juste et Allah est sage. Jamais il ne ferait une telle chose. Il a toujours gardé confiance en Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit à ses enfants, ceux qui sont avec lui à Canaan, que je sens l'odeur de mon fils, même si vous allez dire que je radote, que je dis n'importe quoi, effectivement, les enfants ont dit que Inna kalafil dalal ikal qadim, Ibn Kathir dit, c'est une parole déplacée encore qu'ils ont dit à l'égard de leur papa, qui en plus est nabi et prophète. Hey, Inna kalafil khata ikal qadim, tu es toujours en train de parler de tes vieilles histoires. Et effectivement, lorsqu'ils sont arrivés, le fils, un de ses fils qui s'appelait Yahouda bin Ya'qub, Yahouda, il a pris la tunique, le vêtement de Yusuf alayhi salam, et il l'a mis sur le visage de son père qui immédiatement a retrouvé la vue. Pourquoi Yahouda? Pourquoi ce fils-là? Parce que Ibn Kathir dit que c'est le même Hu alladhi ja'a bil qamis, c'est le même qui avait menti au papa au début de l'histoire, qui avait amené le vêtement de Yusuf taché de sang. Il a dit que les loups l'ont mangé. Il dit qu'il a essayé de se rattraper en ramenant maintenant ce vêtement et en le mettant sur le visage de son papa. Faraja'a basira. Immédiatement, il a retrouvé la vue. Et hada min qudratillahi azza wa jal. Ça, c'est la qudrat d'Allah azza wa jal qui donne la santé, le shifa à qui il veut, de la façon qu'il veut et quand il veut, avec ou sans intermédiaire. Mais ce geste, c'était un signe qui prouve qu'Allah Rabbul Izzah a décrété que ça se passe de cette façon. Et que Yaqub, Yusuf savait que c'était de cette façon que son papa allait retrouver la vue. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et là, immédiatement, Allahu Akbar, Yaqub alayhi salam, il dit à ses fils, Alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Et ça, c'est le ilm d'un prophète. Ça, c'est le ilm d'un prophète. Il a dit que celui recouvra, il retrouvera aussitôt la vue et dit, ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas. Je sais, il a dit que sa confiance en Allah, ça dépasse tout ce que ses enfants pouvaient imaginer. Il savait que ce moment allait venir un jour et qu'Allah allait envoyer sa nusra, son aide. Et là, immédiatement, ses enfants, ils ont imploré, ils ont demandé pardon. On n'a pas dit, « Ya abana, astaghfir lana, dhunubana, inna kunna khati'in. » Ils ont dit, « Oh, notre Père, implore pour nous la rémission, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. Ils ont reconnu que tout ce temps, ils ont menti à leur papa. Et comment ils ont fait du tort à leur père qui a perdu la vue à force de pleurer la disparition de Yusuf alayhi salam. Et maintenant, ils reconnaissent et ils ont honte devant leur père. Mais ils disent, notre père demande pardon à Allah Azza wa Jal pour nous. Ils demandent l'intercession de leur père qui est prophète pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et là, on voit l'amour d'un père pour ses enfants. Malgré le tort que ses enfants ont pu faire, il dit que immédiatement, il n'a pas dit que non, maintenant, voyez, on a découvert la vérité, vous m'avez menti, vous m'avez trompé. Il dit immédiatement, qala, saufa astaghfiru lakum rabbi, parce que, innahu huwa al-ghafur al-rahim. Il dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Parce que man taba ilayhi taba alayhi, celui qui revient vers Allah, Allah Rabbul Izzah lui accorde son pardon. Dans certaines sourates, il dit que c'était laylat jum'a, c'était la veille de jum'a, c'est-à-dire jeudi soir, que Yaqub alayhi salam a demandé pardon à Allah Azza wa Jal en faveur de ses garçons, de ses enfants, et Allah Azza wa Jal a accepté le pardon de Yaqub alayhi salam pour ses enfants. Et ce qui prouve le pardon de notre Seigneur, comment Allah Rabbul Izzah et Ghafur al-Rahim peut pardonner les péchés et les erreurs aussi graves qu'on peut concevoir. Hada. Bon, la suite, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui, mais juste je voulais conclure avec la fin de l'histoire maintenant. Lorsque Yaqub alayhi salam arrive avec ses fils et sa famille, Yusuf alayhi salam est sorti de Mosr, d'Égypte, pour l'accueillir. Il a demandé aux notables, aux personnes importantes, dans certaines sources, même le roi est venu pour accueillir le père de Yusuf alayhi salam. C'est Yusuf qui est devenu un élément clé de le fonctionnement du royaume de Masr, de l'Égypte. Et voyez donc, subhanallah, après toutes ces années de souffrance, comment quand Allah Azza wa Jal envoie sa nusra, son aide, comment l'aide d'Allah Azza wa Jal dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ya'qub alayhi salam est accueilli comme un roi par son fils qui lui-même est ministre. Wa rafa'a bawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada. Il a amené son père sur le siège, le trône, on pourrait dire, c'était plutôt Ibn Kathir, c'est un endroit où il s'asseyait en étant ministre. Donc il a amené son papa et sa maman et les amis assis auprès de lui. Et l'ensemble de sa famille se sont prosternés devant lui. Comment est-ce que c'est traduit wa kharru lahu sujjada? Parce qu'il y a le tafsir, et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et en commentaire, Ibn Kathir dit dans le Sharia, de leur religion, ce signe était autorisé. Ce n'était pas apparenté au shirk. Le fait de se prosterner devant un roi, c'était une chose qui était permise dans la sharia. Ensuite, dans notre dîn à nous, Allah Rabbul Izza l'a interdit. Et on retrouve, sans entrer dans les détails, quand Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, était parti au royaume, au Sham, et il avait vu que les gens se prosterner devant les rois. Falamma raja, et lorsqu'il est revenu, qu'il avait retrouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Mu'adh, il a fait la même chose. Et le prophète sallam a dit, ya Mu'adh, ma hadha. Ça veut dire quoi, ça, ou Mu'adh? Il dit que, au prophète d'Allah, inni ra'aytuhum yasjuduna. J'ai vu qu'ils se prosternent devant les autorités, leur roi, le responsable. Wa anta haqq wa yusjad alaka ya Rasulallah. Il dit, s'il y a bien une personne devant qui on peut se prosterner, c'est toi, prophète d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, était un homme qui ne recherchait pas l'honneur, qui ne voulait pas qu'on le mette en avant. Il a dit que, oh Mu'adh, ça c'est pas de nos habitudes. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit une parole, ça c'est le genre de parole qu'on dit entre nous, hein, à la masjid. On va pas dire ça dans les assemblées mixtes, parce qu'après ça fait bouger un peu les dames. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت زوجته ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. Hadith rapporté par Ibn Majah et Musnad Imam Ahmed. Ce hadith, en plus, Ibn Majah l'a mis dans le Kitab al-Nikah, dans les hadiths en rapport avec le mariage. Il dit, oh Mu'ad, sache que si je devais autoriser ou ordonner une personne de se prosterner devant une autre personne, j'aurais demandé à l'épouse, aux femmes, de se prosterner devant leur mari, tellement le mari a des droits sur l'épouse. Donc une fois, je le dis ça, on le dit dans un cercle privé, entre les bonhommes, entre les messieurs. Si on dit ça avec les dames, on dit oui, mais attends, mais d'accord, mais normalement, l'homme se doit de répondre aux besoins de la femme et tout, mais est-ce que de nos jours, ils le font? Non, le prophète ne l'a pas ordonné, mais c'était pour faire comprendre que s'il y a bien une personne qui est redevable de quelque chose envers quelqu'un d'autre, c'est la femme qui doit tout à son mari. Maintenant, c'est vrai que nos jours, Allah Musta'an, est-ce que les maris s'acquittent de leurs devoirs envers leur épouse? Allah Musta'an, qu'Allah nous pardonne le manquement. Également, Salman al-Farisi. Salman al-Farisi venait de Perse. Donc, c'était un autre royaume. C'était une autre mentalité. C'était d'autres habitudes. Lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rencontré dans une route, un chemin qui mène vers Madina. Et Salman venait d'accepter l'islam. Donc il ne connaissait pas encore les pratiques de l'islam. Et il s'est prosterné devant le prophète. Le prophète dit, la tasjud li, ya Salman, wasjud li l'hayy alladhi la yamut. Le prophète, même quand il dit une phrase de trois mots, sa phrase est magnifique. Il a dit une petite phrase, mais c'était déjà une phrase d'un maître. Une phrase magnifique. C'est des termes arabes simple, il n'y a même pas besoin de dictionnaire, mais c'est orchestré d'une telle façon, avec une telle beauté, que ça c'est vraiment kalam un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mu'adh, ya Salman, la tasjud li ya Salman, oh Salman, ne te prosterne pas devant moi, wasjud lil hayy alladhi la yamut, prosterne-toi devant Allah l'éternel, celui qui ne meurt pas. Pour montrer que le sujda se fait devant Allah, azza wa jal, uniquement hada. Et lorsqu'il dit à son père, voilà, on revient à Yusuf alayhi salam, ce que j'ai vu, mon rêve que je t'avais raconté avant, ces étoiles qui se prosternent devant moi, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est la concrétisation, la réalisation du rêve. Qad ja'alaha rabbi haqqa, ay sahihatan sidqa. Il dit, oh mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Il dit que c'est Allah qui vous avait fait venir depuis ces endroits éloignés. Il est dit dans certaines sources qu'ils habitaient en Palestine. Yaqub et ses enfants, ils habitaient dans Badia. Ils habitaient dans le désert. Ils s'occupaient de chameaux, ils s'occupaient de ranam, de moutons et tout. C'était des gens, conditions très difficiles. Et Allah les a ramenés dans un grand pays comme l'Égypte, dans cette situation. C'est là la réalisation du rêve de Ru'ya de Yusuf alayhi salam, de ce qu'Allah Rabbul Izzah l'a fait voir dans son rêve, et les rêves des prophètes sont toujours véridiques. Et là, c'est la conclusion, mais qui subhanallah, qui conclut l'histoire. Il dit que Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwa al-alim al-hakim. Ibn Kathir le développe d'une façon magnifique, mais on n'a pas le temps de l'expliquer. Il dit que Inna Rabbi latiful lima yasha. Alors comment est-ce qu'ils ont traduit? Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Avec la traduction, on ne voit pas vraiment la beauté de ce verset. Ibn Kathir dit Ay idha arada amran. Dit lorsqu'Allah Rabbul Izzah a décrété quelque chose, Allah envoie les intermédiaires, Allah décrète que ça se passe de cette façon, Allah crée les situations, Allah crée les intermédiaires, et les choses se déroulent comme Allah l'a décidé. Et ça, on pourrait donner des exemples sans compter dans l'histoire de tous les prophètes. Quand Allah veut basculer une situation, un dénouement, et va accorder la nusra, Allah change les choses complètement. Quand on a dans le surat Al-Qasas, qu'on va lire bientôt, c'est une des sourates, c'est pas à moi de dire, c'est une des plus belles, mais qui est le plus marquant. Quand Allah, Rabbul Izzah, dit « Wa nuridu anna munna ala alladhina astud'ifu fil ard, wa naj'alahum a'imma, wa naj'alahum al-warithin. » Après qu'au début de surat Qasas, Allah, Rabbul Izzah, décrit comment les Banu Israël étaient persécutés et réduits en esclavage, ensuite Allah dit « Et maintenant, wa nuridu » Allah décide. Maintenant, nous voulons, en ce sens, changer la situation et donner le pouvoir aux opprimés, et les opprimés vont devenir les dirigeants. Allah décide tout d'un coup que les esclaves deviennent les dirigeants. Et les dirigeants, ils périssent. Ça, c'est Amrullah. Iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Avec ou sans intermédiaire. Ce yaqin, on doit l'avoir. Les anbiya l'ont toujours eu. Et le dars pour nous, la leçon, c'est de retenir cette confiance que le prophète alayhi salatu wasalam avait sur la décision d'Allah et sur son pouvoir. Donc il dit que, Yusuf dit que ça c'est le travail d'Allah Rabbul Izzah. Quand il décide, il l'applique comme il le veut, avec les intermédiaires qu'il veut. Innahu huwa al-alim al-hakim, al-alim bima salih ibadi. Allah, il sait pourquoi il a fait cette situation. Allah Rabbul Izzah seul, c'est al-alim. Il connaît pertinemment. Pourquoi est-ce qu'il a créé une telle situation qui a provoqué des souffrances pour beaucoup de personnes, mais Allah, de sa sagesse, il sait pourquoi il le fait. Et de cette façon pour nous, de notre vie, quand on a des difficultés, des épreuves, quel verset me revient à l'esprit? Innahu huwa al-alim al-hakim. Hakim, on va voir. Mais derrière l'alim, Allah sait ta peine, Allah connaît ta difficulté, Allah connaît ton malheur, connaît ta détresse. Allah Rabbul Izzah connaît ce qu'il y a au plus profond de ton cœur qui te chagrine, parce que c'est lui qui a envoyé l'épreuve. Huwa alim, il connaît mieux que toi l'épreuve. Il connaît mieux que toi le début, les tenants, les aboutissants. Donc ne sois jamais triste. Ne pense jamais que tu es seul. Allah est toujours avec toi. Allah, il voit exactement ce qu'il y a, ce qui pèse sur ton cœur. Innahu huwa al-alim al-hakim, ay fi af'alihi wa aqwalihi wa qada'ihi wa qadarihi wa ma yakhtaruhu wa yuridu. Dans tout ce qu'il décrète, dans ses décisions, dans ses paroles, dans l'accomplissement de ses désirs, Allah Rabbul Izzah est sage, et tout émane de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Si on peut retenir cette magnifique parole, cette conclusion de Yusuf alayhi salam par rapport à ce dénouement, il remet tout dans les mains d'Allah, et il remercie Allah Azza wa Jal. Il dit que toutes ces épreuves viennent d'Allah, et Allah sait mieux pourquoi est-ce qu'il a envoyé ces épreuves. En finalité, Alhamdulillah, Allah Rabbul Izzah envoie son aide. Et ensuite, ça on gardera peut-être pour une autre fois, mais il y a 2 ans on avait parlé de ça, là il demande dua. Oh Allah, tu m'as donné telle ni'ama, telle ni'ama. Quel est le dernier doua qu'il demande? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'était les faveurs qu'Allah lui a données. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon maître, ici-bas, de l'au-delà. Et le doua qu'il demande un peu avant de mourir, Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Et ça c'est un terme principal, c'est un thème essentiel. Tawafani muslima. Muslim, c'est celui qui a fait istislamu lillah. Le muslim, c'est celui qui s'est soumis à Allah. Ou alors que quand je meurs, je reste soumis à toi. Je meurs dans une situation où je suis soumis à toi. Tawafani muslima wa lihiqni bis salihin. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Et quelques années plus tard, Yusuf alayhi salam va mourir, va quitter ce monde. Et c'était là son doua. qu'Allah lui a fait voir la vérité, la nusra, il a eu tout. Oh Allah, que je reste dans le droit chemin et que je meure soumis à toi. Ça doit être notre doua également. Comme on avait rappelé hier, il n'y a pas un jour qui se passe sans que le croyant doit demander ce doua pour le sehri, le suhur, au moment de rompre le jeûne. Oh Allah, la mort avec iman, ya Allah, que je, quand je quitte ce dunya, je le quitte avec shahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et que je sois ressuscité avec les ahli tawhid. Ça, c'est le doua que nous devons toujours demander. Qu'Allah nous t'offre de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, et que cette sagesse pénètre nos cœurs, et ces leçons de foi, incha'Allah, nous puissions les intégrer pour les appliquer dans notre vie.